Le balado Trace ton chemin est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi ANSIC Bordeaux Quartier-Ville en collaboration avec la Ville de Montréal. Mon nom est Nelson Roberge et je suis co-éditeur du magazine Baromag. Et dans ce balado, on parle d'économie circulaire, lorsque le déchet des uns sont le modèle d'affaires des autres. Et pour en parler, je suis accompagné de Anne-Marie Laflamme de l'entreprise de mode Atelier B et avec Lisiane Roy-Maheu de l'entreprise Blanc de Gris qui se spécialise dans la culture de champignons. Les entretiens ont lieu lors de la journée extérieure Trace ton chemin qui avait lieu au parc Basile Routier le 17 septembre 2022. Bonne écoute!
Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'événement Trace ton chemin. Vous pouvez écouter les discussions qu'on a ici en podcast et en vidéo qui vont être diffusées au courant de la semaine prochaine sur le site trace-ton-chemin.com. Et là, la discussion qu'on a, c'est l'économie circulaire. Et là, je me rappelle plus de mon titre, c'était « Lorsque le déchet des uns devient le modèle d'affaires des autres ». C'est exactement ça.
Bonne mémoire.
Et pour en parler, j'ai deux entrepreneurs qui sont peut-être un peu plus calés que moi pour en parler. J'ai Anne-Marie Laflamme de la compagnie Atelier B, qui fait de la conception de vêtements. Et Lisiane Maheu-Roy, ou Roy Maheu, je ne me rappelle pas.
Roy Maheu.
Roy Maheu. De Blanc de Gris qui fait des champignons, qui fait pousser des champignons. Et ben, une après l'autre, je vais vous demander de m'expliquer un peu c'est quoi votre entreprise. Puis dans un deuxième temps, en quoi que vous faites de l'économie circulaire peut-être? Ou qu'est-ce que ça représente pour vous ce terme-là là-dedans? Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer avec ça? Ils se regardent.
Alors, moi, je suis cofondatrice de l'entreprise Blanc de Gris Champignons Frais. J'ai une cofondatrice avec moi, Dominique Lynch-Gauthier. C'est elle qui a eu cette super idée de démarrer ça. Ça fait 7 ans qu'on est en affaires. Et on produit des champignons en ville. Donc, on produit des pleurotes en ville, dans un local avec des serres à l'intérieur. Et la particularité qu'on a, c'est d'utiliser des résidus de d'autres entreprises, c'est-à-dire on utilise principalement 3 intrants qui sont les drèches de brasserie. Donc, la drèche, c'est le grain qui sert à faire la bière. Donc, les brasseurs, ils vont utiliser le grain, ils vont le faire bouillir et par la suite, ils vont jeter ce grain-là pour garder l'eau et en faire de la bière. Mais le grain, bien, il est très bon, il est très frais. C'est juste un peu comme du gruau, là, du grain qui a bouilli. Donc, nous, on le récupère chaud, frais, sur place. On l'apporte à la ferme et on va le mettre dans notre mélange pour faire pousser des champignons. On utilise aussi la pellicule argentée. C'est la petite pellicule autour du grain de café. Ça tombe quand le café se fait torréfier. Donc, c'est un autre de nos intrants, le résidu des torréfacteurs. Et on utilise le résidu de bois de Castella, qui est une compagnie qui fait des meubles en bois franc. Et eux, nécessairement, ont de la sciure de bois qui résulte de ça. Donc, on récupère ça aussi. Et avec ces 3 beaux intrants-là, on les mélange, on les pasteurise. Et par la suite, on va les inoculer avec du mycélium de champignons, la racine, si on veut, de champignons. Et puis, on met ça dans des seaux percés. Et là, ça sort par les trous. Et puis, on a des beaux champignons qui sortent de ce mélange-là, qui ont un goût différent, qui vont être plus goûteux, plus charnus. Et c'est ça. Dans le fond, on utilise les déchets de ces 3 types d'entreprises-là pour produire de la nourriture en ville.
Est-ce que tu voudrais me dire pourquoi ces résidus-là en particulier? Pourquoi? Est-ce que ça aurait pu être n'importe quoi? Ou vous avez choisi ces résidus-là parce que il y avait des saveurs particulières qui ramenaient dans ce que vous vouliez donner comme produit?
On ne goûte pas tant la saveur, c'est que c'est des intrants qui vont bien se faire transformer par le champignon. Donc, au début, on utilisait le marc de café, la petite capsule de café là, quand vous jetez votre café, le résidu. Ça aussi, ça se prêtait très bien à faire les champignons, mais c'est plus difficile à utiliser parce que ça moisit très vite. Donc là, on peut avoir une compétition entre les champignons, puis nous, on ne veut pas du moisi, on veut des pleurotes. Donc oui, c'est 3 intrants qui peuvent être transformés. Dans le fond, les champignons, c'est des transformateurs. Ils vont transformer la matière pour la transformer en champignons. Donc, c'est 3 ou 4 beaux intrants qui servent de nourriture pour les champignons.
Ah, c'est ça, je vais demander à quoi ça sert les intrants en bout de ligne. Tu sais, est-ce qu'on ne peut pas faire juste pousser les plus hautes comme ça ou tu as absolument besoin de résidus de quelque chose qui va venir les créer? Fait que, tu viens de dire, dans le fond, ils viennent de se nourrir de ça pour pouvoir.
Oui, c'est ça. Mais dans la forêt, dans le fond, les champignons, eux, ils ont tout un réseau mycéliaire dans la terre. Mm-hmm. Ils vont transformer le bois mort. C'est pour ça qu'on en voit souvent pousser sur les arbres par terre. Donc, le pleurote particulièrement, il aime beaucoup les bois francs. Donc, il va s'installer dans du bois franc qui est mort, puis il va devenir un champignon. Au bois, en ajoutant la drèche et la pellicule de café, on vient jouer avec un ratio carbone-azote. Donc, le bois étant du carbone et la drèche étant de l'azote, on peut mélanger ces intrants-là à un certain niveau pour que ça produise des champignons. On ne pourrait pas le faire comme juste sur la drèche, ce serait trop d'azote, trop acide là, pour ça, mais avec un mix avec le bois puis la pellicule, ça peut donner des champignons.
Puis qu'est-ce que vous faites avec ces champignons-là? Fait que là, vous avez plein de beaux champignons et des bons champignons.
Oui.
Qui les mange?
C'est principalement les restaurateurs. Donc, nous, on avait basé notre modèle d'affaires sur les restaurateurs parce qu'ils achètent des bonnes quantités. Avec le COVID, qu'est-ce qui est arrivé quand les restaurants ont tous fermé? Bien là, on s'est dit, bon, c'est pas une super bonne idée d'avoir juste un marché. On s'est tourné un peu plus vers les particuliers. On essaie de vendre directement aux gens ou de rentrer dans les boutiques. Et même, on a commencé à faire de la transformation parce que, c'est ça, on s'est retrouvé avec beaucoup de champignons. Oui, c'est ça.
Puis comme transformation, qu'est-ce que vous...
Maintenant, on fait un jerky de pleurote. Donc, on marine nos champignons qui sont invendus. On les déshydrate, puis ça donne comme le jerk de bœuf, mais c'est végétarien. Donc, du jerk de champignons.
Et on a Anne-Marie. Toi, est-ce que tu veux me parler de ton entreprise? Puis en quoi vous faites de l'économie circulaire?
On est complètement ailleurs. Nous, on est deux amis qui ont fondé Atelier B. On a commencé à travailler sur le projet en 2007-2008. On l'a mis sur le marché en 2009. Donc, ça explique les cheveux blancs. On fait des vêtements, donc pour hommes et femmes. On a acheté une ligne pour enfants aussi à nos collections en 2016. Donc, c'est des vêtements qui sont fabriqués au Québec, à Montréal, dans notre atelier ou dans des petits ateliers indépendants à moins de 5 km. Puis, on travaille avec des matières premières qui sont naturelles, donc principalement de la fibre cellulosique. Je le souligne parce que c'est important pour le processus d'économie circulaire qui s'en vient. Okay. Nous, notre modèle d'affaires n'était pas basé au départ sur l'économie circulaire. En 2009, je n'avais jamais entendu le mot économie circulaire. Je ne savais pas c'était quoi. On parlait à ce moment-là de vêtements éthiques, de vêtements... On commençait à utiliser le mot responsable. On parlait de mode verte. T'sais, c'était plus un vocabulaire. Mais avec le temps, ça a évolué. Nous, on a fait beaucoup de recherches de notre côté parce qu'on est passionnés par l'impact environnemental des vêtements. Catherine et moi, donc ça s'est fait...
Il y a un gros enjeu par rapport à ça, là, t'sais, depuis longtemps, je pense que ça se parle beaucoup là, de tout ça.
Puis c'était une réponse à quand on a commencé le projet, il y avait peu d'offres de vêtements éthiques, locaux et avec des fibres naturelles. L'offre était peut-être moins intéressante pour des gens qui s'intéressaient au design, donc nous, on a essayé de combiner l'amour du design avec l'amour de l'environnement pour offrir un produit qui se différencie un peu. Puis avec le temps, bien, comme on voulait rester un peu à l'avant-garde de ce qui se faisait en termes d'environnement, bien, nos processus ont évolué. Puis nous, le plus gros défi qu'on avait, c'est la création de déchets dans une entreprise manufacturière. Notre matière première, c'est ce qui a le plus d'impact sur l'environnement pour nous parce qu'elle a utilisé les ressources de la terre, elle a été transportée, elle a demandé beaucoup d'énergie pour être filée, teinte ou tricotée. Puis, quand on utilise la matière, bien, les vêtements, c'est un peu comme des pièces de casse-tête qu'on place sur un rouleau de tissu. On avait beau optimiser notre façon d'utiliser la matière première, concevoir nos vêtements pour optimiser la matière, créer des petits produits pour utiliser les retailles, il restait quand même toujours entre 2 à 10 % de la matière première qui allait à l'enfouissement. Nous, on est reconnus pour notre utilisation des couleurs puis pour la qualité de nos matières. Fait qu'on voyait ces grands sacs chez notre coupeur remplis de belles matières colorées. Puis on se disait, ça ne peut pas devenir comme un pigment ou une nouvelle matière pour faire quelque chose d'autre. Donc, puis j'avais aussi parallèlement à ça une espèce d'obsession sur qu'est-ce qui arrivait avec nos vêtements en fin de vie. Ça faisait 12 ans ou 10 ans qu'on était en affaires. On a vendu des centaines et des centaines de vêtements par année. Où sont-ils? Qu'est-ce que les gens font avec? Qu'est-ce qu'ils dorment dans le garde-robe? Est-ce qu'ils ont été mis aux poubelles? Que sont-ils advenus de ces pièces-là? Donc, on a mis sur place, premièrement, un programme de collecte de nos vêtements en fin de vie. Donc, ça fait partie de notre processus d'économie circulaire d'être en tant qu'entreprise peut-être citoyenne, là, responsable de nos produits ensuite, après ouais. l'achat aussi. Donc, les clients peuvent nous les ramener, peu importe l'état dans lequel ils se trouvent. Puis c'est même d'un point de vue anthropologique, puis d'un point de vue de designer, c'est super intéressant de voir nos vêtements 10 ans plus tard. Là, qu'est-ce qui...
La façon qu'ils ont usé, la façon qu'ils ont... qu'est-ce qui s'est passé. Oh, puis, ça, c'était pas assez solide. OK.
Ou, wow, tu l'as porté 500 fois. Je vois à travers le lin utilisé à la corde. C'est quand même fascinant. Puis oui, ça nous permet d'améliorer certains processus aussi, mais ça, on le faisait déjà parce qu'on offre la réparation à l'atelier, l'entretien. Fait qu'on avait déjà cette relation-là. Mais c'est rare que les clients nous les amènent sans nous raconter l'histoire. Hein, ils nous racontent toujours « je l'ai tellement aimé, je l'ai mis au tel mariage, tel événement. » Ça représente beaucoup pour moi, puis je ne savais pas quoi faire avec. Il me fait plus. Il dormait dans mon garde-robe, mais je n'osais pas m'en débarrasser parce que je voulais qu'il soit revalorisé de façon avec autant d'amour que j'ai pour lui. Fait que ça a comme réglé un problème aussi sentimental pour nos clients. Donc ça, c'est une partie. Puis là, les vêtements qui sont en bon état, on en dispose de façon responsable, soit en les offrant à bas prix à la communauté de notre quartier. Peut-être des gens qui n'avaient pas accès à nos créations, maintenant, ils ont accès parce qu'on a une offre seconde main dans nos ventes d'atelier. Donc, c'est intéressant pour l'accessibilité. Mais aussi, on a des partenariats avec des organismes, soit de réinsertion sociale ou pour les gens sans domicile fixe, sans abri, pour, selon leurs besoins, par contre, parce que c'est important de ne pas leur envoyer des choses qui n'ont pas de besoin. C'est un gros problème avec les OBNL. Là, on pense qu'on fait une bonne action en leur envoyant des sacs de choses, mais c'est souvent pas les bonnes choses. Donc, on a vraiment créé une relation avec eux. Mais là, il restait tous les vêtements non voulus ou trop usés, pas en bon état. Puis, il y avait notre problème de retail. Puis, on se disait, toute cette matière-là, qui est une matière cellulosique, qui doit avoir une solution scientifique pour faire quelque chose avec ça, une solution innovante ou... Fait qu'on s'est mis à travailler avec... On a fait différents tests, puis on a travaillé avec des gens qui travaillent le papier de façon artisanale. Des papiers fabriqués avec des fibres cellulosiques, donc des retailles de coton, des retailles de lin. Okay. Puis nous, ce qui nous intéressait, à cause de nos volumes, on peut pas faire... du papier artisanal, c'est très coûteux. Puis on pourrait faire, avec nos retailles, des milliers de feuilles dont on trouverait peut-être pas preneur. Il faut pas non plus créer un autre problème. Mm-hmm. Donc, on s'est dit, une solution, ça serait de faire des objets 3D qui nécessitent plus de matière, qui permettent de recycler l'entièreté de nos retailles parce qu'ils sont plus gros, plus volumineux. Donc là, on a travaillé avec différents organismes.
Il y a de la recherche là-dedans.
C'est beaucoup de recherche. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis ça nous sort un petit peu de notre... Tu sais, nous, on est des designers de mode. On est habitués de travailler avec le textile. Là, on travaille avec le textile, mais comme ça devient un autre médium, puis avec des intervenants différents... mais c'est ça, c'est super intéressant. On travaille avec la SODEC, on travaille avec Recyc Québec, des centres de transfert technologique, puis on est arrivé à trouver des solutions pour créer nos objets 3D. En fait, on utilise les techniques traditionnelles du papier, mais en les modifiant avec la technologie pour arriver. Puis nous aussi, on a eu des problèmes de moisissure. Je pense que quand on transforme la matière avec de l'eau, il faut trouver des solutions pour que le séchage soit assez vite, pour que le centre des pièces ne moisisse pas. De là, l'intérêt aussi de travailler avec des entreprises plus en technologie. Puis, c'est ça, en combinant notre savoir-faire plus au niveau du design puis nos connaissances des fibres avec des gens qui sont peut-être plus habitués de travailler avec la fibre issue du domaine de l'industrie, justement, papetière, la fibre cellulosique de bois, ben, on a mis nos connaissances ensemble puis pour arriver à faire ça. Puis là, on commence à commercialiser tranquillement des pièces au fur et à mesure qu'on développe des solutions pour arriver à avoir une production manufacturière complètement zéro déchet.
Quand tu parles de créer des objets, comme quoi?
Bien là, pour l'instant, on a des mobiles qui sont sur le marché. Donc, c'est des belles pièces de couleur, des belles formes esthétiques. Nous, souvent, quand il y a du recyclage de papier, il n'y a pas de considération esthétique dans le sens où ils vont tout mélanger les retailles. Mm-hmm. Ça va faire des papiers, justement, qui sont moins blancs ou des matériaux comme pour les emballages qui sont bruns ou gris, comme si on mélange toutes les couleurs. Là, on le sait, nos enfants mélangent toutes leurs plastines, ça devient gris-brun. C'est la même chose. Nous, on utilise vraiment la matière comme un pigment. Donc, on va mettre les rouges ensemble, les verts ensemble, les bleus, les jaunes, puis on arrive à créer des pâtes qui ont des propriétés esthétiques. Donc, on travaille sur un cintre. En ce moment, on trouvait l'image du cintre très symbolique. Donc, les retailles de vêtements vont servir à porter le vêtement lui-même.
Ah oui, il y a un concept. Ah
oui. C'est quand ça a un sens qui parle aussi du projet. Fait que, tu sais, ça serait pas un matériel qui pourrait servir, par exemple, à faire des emballages pour le transport, parce que ça a vraiment une valeur ajoutée. Ça devient un produit qui est quand même artisanal. Donc, il faut que ce soit un produit, justement, design avec une valeur, la même valeur que nos vêtements, en fait. C'était ça le défi. Donc, il y a des objets pour la maison. On a des pinces magnétiques qui servent dans le bureau pour accrocher les photos des enfants sur le frigidaire. On est en train de travailler sur des cache-pots aussi pour les plantes. On est en train de trouver des solutions pour imperméabiliser la matière, pour lui donner plus de possibilités. On travaille sur... On a plein d'objets, là, mais c'est des formes 3D qui deviennent utiles et belles dans une maison ou un bureau.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça, vous êtes en processus d'innovation puis de recherche aussi, tu sais, recherche et développement, finalement, tu sais, développer des choses, c'est que ça prend beaucoup de temps à trouver les bonnes affaires. Vous allez trouver des affaires qui, oups, tu sais, peut-être ça ne fitera pas pendant... Mais finalement, c'est le fun de pouvoir réutiliser ça. C'est vrai, tu sais, on se dirait des retails. Tu sais, on reprend les retails pour faire d'autres. Tu sais, on l'a vu souvent, je fais un coffre à crayon avec les retails, je fais des choses comme ça. Mais de pouvoir le transformer en objet, c'est quand même un autre stade. Ça me fait penser, j'avais fait une entrevue, puis en revenant avec les résidus de brassage, j'avais fait des entrevues avec des personnes qui réutilisent ça aussi. Bon, tu sais, il y a eu pendant longtemps, ils utilisaient l'adresse de microbrasserie pour faire des craquelins, des choses comme ça, tu sais, puis... Moi, j'en ai goûté, puis c'est pas fameux, là. C'est pas fameux, des craquelins faits à base de ça. C'est sec, puis c'est pas de goût, puis ça. Mais il y en a d'autres qui réutilisent, ça s'appelle Boomerang, puis qui font de la farine avec. Fait qu'eux, ils font de la farine, ils ont un processus de séchage, blablabla, tout ça, et ils vendent ça dans les boulangeries. Et là, les boulangeries, ben là, ils ont de la farine normale, mais ils rajoutent un petit peu de ça pour rajouter du goût, puis là, ça rajoute des affaires. Fait que, tu sais, au-delà de... Ben là, ils ont créé leur produits de transformation aussi, mais ils réutilisent ça, puis ils offrent le service d'aller chez les microbrasseries pour aller le chercher, puis ils se débarrassent de ça, puis là, ils créent ça, puis ils ont réussi à créer une sorte de demande à force de faire de la farine comme ça, puis c'est intéressant. Et l'autre compagnie qui réutilisait les résidus de microbrasserie, eux, ils s'en servent pour faire des cosmétiques. Fait que là, eux, ils vont créer des crèmes, des choses, tout ça. Là, eux, ça doit être la même couleur, ça doit être des résidus pour une pale ale, blonde, genre transparente. Mais ils vont commencer à aller avec des... si on des bières un peu plus ambrées, puis tout ça, ben, ils vont créer des gammes, des choses comme ça. Mais de se dire comme, OK, ben là, tu sais, c'est... OK, on fait de la bouffe, tout ça, mais là, de créer des cosmétiques à base de ça, c'est un autre concept. Fait que, à partir de là, vous, à quel moment peut-être ça vous a intéressé le concept de l'économie circulaire? Disons, quand vous avez lancé Blanc de Gris, est-ce que c'était déjà quelque chose que vous, dans lequel vous le travaillez? Ou est-ce qu'avant ça, vous aviez d'autres projets? Est-ce que vous étiez intéressé à ce concept-là?
Moi, c'est beaucoup le concept environnemental qui m'a parlé du projet de Blanc de Gris. Mon associée, elle avait vu que ça se faisait, ça, faire des champignons sur du marc de café à Paris. Il y avait déjà quelqu'un qui faisait ça comme ça. On s'est dit, ah, ben c'est une bonne idée. Fait qu'on a commencé à faire des tests avec le marc de café. C'était pas tant juste de créer des champignons. C'était vraiment d'en créer en ville. Comme ça, c'était proche des gens qu'on distribuait. Mais vraiment de réutiliser des résidus. Sinon, ben tu peux juste prendre du bois. Tu peux acheter du bois pour faire pousser des champignons. Ou prendre de la paille et faire pousser des champignons. Souvent, c'est ça qu'ils font comme en région. S'ils ont de la paille, ils vont le faire pousser dessus. S'ils ont du bois dessus. Nous, c'était vraiment de voir les résidus autour de nous qu'on pouvait utiliser pour cultiver des champignons. Fait que oui, c'était pas le projet à la base, c'était pas juste de faire pousser les champignons, c'était vraiment d'utiliser les intrants autour de nous pour les faire pousser.
Puis est-ce que avant de partir, là tu parles de ta collègue là aussi qui était beaucoup impliquée là-dedans aussi. Toi, est-ce que tu as amené cette concept-là? Est-ce que toi tu connaissais ça aussi avant puis tu as fait comme oui, c'est bon, wow, quel nouveau projet? Ou est-ce que tu avais d'autres projets ou est-ce que tu appliquais l'économie circulaire avant ça, dans d'autres choses?
Non, ben nous aussi, quand on a commencé, c'était en 2015, donc c'était pas super connu, là, et ce mot-là n'était pas sur toutes les lèvres à l'époque. Non, j'avais pas de projet. Moi, je me cherchais un peu, puis je me disais, je voulais m'en aller plus vers récupérer des résidus alimentaires, comme récupérer ce qu'il y avait. Il y en a beaucoup maintenant qui le font, puis je trouve ça vraiment super. Partage et solidarité, c'est un organisme qui le fait. Ils prennent les invendus des épiceries, puis ils le redonnent aux gens qui en ont besoin, ou juste tu peux t'inscrire, puis aller chercher un panier. Je me serais dirigée vers quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment l'aspect de... L'économie circulaire, dans le fond, c'est de réutiliser des choses qu'on a déjà utilisées pour en faire d'autres. Tandis que notre société, si on veut, est basée sur l'économie linéaire, donc de toujours utiliser des ressources, les prendre puis les jeter. Puis ça, bien, ça ne fonctionne pas à long terme parce que les ressources vont s'épuiser. Fait que c'était plus le concept d'utiliser pour réutiliser qui m'a parlé, moi. Puis quand mon ami et associé m'a parlé du projet, c'est ça qui m'a allumé. Je me suis dit, ah, ben oui, ça, c'est un beau projet embarqué dedans pour faire quelque chose pour la suite. Là. Pas juste faire quelque chose, mais faire quelque chose qui va être...
Mais tu parles de quoi d'intéressant par rapport à l'alimentation, tu sais, les légumes, puis tout ça, les affaires, les invendus, les affaires de même, tu sais. Là, peut-être qu'on s'en va dans un autre truc, là, mais le concept du dumpster diving, là, tu sais, aussi, tu sais, d'aller chercher, bon, les épiceries qui jettent leurs affaires dans les poubelles en arrière, mais qui viennent des jeter. Il y a beaucoup de monde qui font leur garde-manger en allant chercher les fruits qui sont juste comme poqués, tu sais, ou qui sont parfaits, finalement, mais qui veulent pas... Eux, ils veulent pas le garder une journée de plus, je sais pas ce qui se passe, mais il y a beaucoup, beaucoup... Dans l'alimentation, là, il y a énormément de gaspillage. Là.
La même chose existe dans le domaine du vêtement aussi. Les entreprises, c'est un problème. Ils ont des surplus d'inventaire. Ils produisent plus pour être sûrs de ne pas perdre de vente. Ils calculent dans leur marge. Là, je parle du fast fashion puis des grandes chaînes. Là, ils vont calculer un pourcentage dans leur marge pour, en sachant qu'ils vont se débarrasser d'invendus. Puis on l'a vu, là, ça a été dans les médias dans les dernières années, des entreprises qui découpaient leurs vêtements avant de les mettre au chemin pour être sûr que personne ne veut les réutiliser. Les souliers, les mettaient dans deux containers différents pour que personne puisse les prendre. Puis là, la Ville de Montréal a passé récemment, je pense en 2020, une loi disant que bientôt, les entreprises de mode n'auraient plus le droit de jeter ou puis d'incinérer. C'est un gros problème. Ils les incinèrent pour être sûr qu'ils ne se retrouvent pas chez des gens qui n'ont pas payé. Donc, le gaspillage dans le domaine, déjà qu'on a comme un problème de ressources, on pollue tellement dans la fabrication, puis le pourcentage, c'est comme dans l'alimentaire, il y a un gros pourcentage qui se retrouve aux poubelles puis qui a pollué comme pour rien. Donc, nous, on avait essayé de faire de la symbiose industrielle au début. Ce que vous faites, c'est de prendre les déchets d'une entreprise. Donc, on a essayé de trouver preneur pour nos déchets. On a travaillé avec un organisme qui s'appelle Synergie Montréal. Sa mission, c'est... justement, de mettre en commun les entreprises pour que les déchets de l'un deviennent la matière première de l'autre. Oui. Mais les seules entreprises qui étaient intéressées à prendre nos matières, c'était des certains formats, donc pas toutes les retailles. Puis en plus, c'était pour en faire des guenilles ou des choses qui ne valorisaient pas, en fait, la matière première. Nous, on voulait trouver quelque chose qui ne diminuait pas sa qualité, qui allait garder sa matière première. Donc, c'était la même chose. On se disait... Puis, il y a un rapport qui est sorti aussi, le rapport Mutrec sur l'industrie du vêtement au Québec, puis que ça montre à quel point c'est désastreux, les surplus, puis la pollution reliée au surplus d'inventaire. Donc, on s'est dit, bien, comme il n'y a rien qui existe, puis qu'on ne peut pas trouver personne pour valoriser nos déchets, bien, c'est là qu'on s'est mis à faire la recherche, puis essayer de trouver des solutions nous-mêmes. Puis, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces solutions-là partent. C'est comme un mouvement. Là. Il y a d'autres entreprises qui nous ont dit « Ah, quand vous aurez réussi à réutiliser 100 % de vos retailles, moi, j'en ai de la matière cellulosique que je serais prête à injecter dans vos projets pour augmenter vos volumes. » Mais ça serait intéressant que chaque entreprise gère ses propres déchets pour trouver des solutions. Puis je pense que pour ça, ça passe aussi par de la législation. Si ça coûtait très cher de faire créer des déchets, s'il y avait un incitatif financier et pas juste des gens de cœur qui ont envie de faire des choses pour la planète, ça aiderait à ce que les gens deviennent peut-être un petit peu plus inventifs et trouvent des solutions pour les diminuer.
OK. Je vais pas le googler, là, je vais te demander de me dire, mais matière cellulosique.
Ah oui, bien, cellulosique, ça veut dire que ça vient d'une plante.
Ah, OK.
Donc, du coton, du lin, dans notre cas, du lyocell qui vient de l'eucalyptus. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire les mêmes techniques que le papier. Le papier provient de l'arbre, donc c'est des fibres qui, d'un point de vue chimique, se transforment de la même façon. Donc, moi, il n'y a pas de polyester dans mes vêtements, sinon je ne pourrais pas faire ça. Si c'était de la fibre animale, comme de la laine ou de la soie, ça ne fonctionne pas non plus.
Ah oui, OK. Ah, c'est intéressant. Ben regarde, en tout cas, hein, j'ai évité d'aller sur Google.
Je suis là pour ça.
Oui, hein? Bon, ben, c'est parfait.
Excusez-moi, des fois on oublie, là, c'est vraiment des mots qu'on utilise souvent.
Mais là, on parle, tu sais, on parle d'alimentation, on parle, puis il y en a dans tous les domaines, là, dans toutes les entreprises, il y a des déchets, où il y a quelque chose, où il y a une façon de penser à ça. Il y a une des personnes que je voulais avoir, qui n'a pas pu venir, est un designer industriel, justement, qui pense des concepts d'objets, tout ça, avec le client, en s'assurant, tu sais, justement, le côté de reprendre, puis... Et surtout de jeter le moins possible. Puis ça aurait été vraiment le fun de voir ce côté-là du design industriel, tu sais, de justement, je ne sais pas moi, des machines ou des trucs de même. Parce que c'est partout dans tout ce qu'il y a. Bien, comme on dit, c'est nouveau, là, le concept de l'économie circulaire. Fait que tout ce qui a été, les chaises, tout ce qui a été créé avant, c'est pas été dans ce sens-là. Fait qu'il y a beaucoup à apprendre. Je sais pas, si je reviens avec toi, Lisanne, est-ce qu'il y a un prochain step? Vous autres, dans vos plans, là, vous faites des pleurotes.
Oui.
Seulement les pleurotes. Est-ce que vous développez d'autres
On essaie avec d'autres variétés. Il y en a d'autres qui fonctionnent aussi. Donc, oui, on va pouvoir diversifier les variétés. Il y a du lion's mane qu'on appelle Hydnérisson. C'est un champignon qui est super, il est super bon pour le cerveau. Lui, il fonctionne dans notre recette puis dans notre façon de faire pousser les champignons. Il y en a d'autres aussi. Il faut juste faire encore de la recherche et développement pour y arriver. Mais tantôt, vous parliez, bien, autant Synergie Montréal, nous aussi, on travaille avec eux. C'est super. C'est arrivé dans les dernières années puis c'est bien qu'il y ait un organisme en place qui mette tout le monde qui veulent se parler, tu sais, comme ça, ils nous disent « Ah, ben lui, c'est comme ça qu'on a trouvé Castella. Lui, il y a beaucoup de résidus de bois. France, est-ce que ça vous intéresse? » Donc, depuis, on travaille avec eux. On a été mis en lien par eux. Centre de transfert technologique aussi, on parlait avec le laboratoire cette semaine. Puis, ils nous disent « Ben il y a beaucoup d'autres champignards qui nous approchent. » Parce que nous, à la fin, nous, c'est bien beau, l'économie circulaire, tout ça, mais à la fin, on a aussi un résidu. Le substrat usé, qu'on appelle celui qui a produit, là, il nous a donné tout ce qu'il pouvait là, pour produire des champignons, mais il reste quand même... Ben, oui, c'est ça. C'est comme du compost. Fait qu'on en donne aux jardins communautaires, on en donne aux gens. Puis les autres champignonnières aussi, ils sont prêts avec ce problème-là. Ils se retrouvent avec des blocs qui produisent plus beaucoup, puis ils veulent faire quelque chose avec. Fait qu'on va pouvoir, en se mettant tous ensemble, comme tu disais, avoir plus de résidus, puis les transformer en quelque chose. Peut-être, tu sais, quand vous recevez un colis, puis qu'il y a du styromousse tout autour, on pourrait, avec le substrat usé, faire, tu sais, ça aurait été bien ton designer d'Israël aussi, voir les possibilités que lui verrait, faire les mouler, puis là, exemple, on approche Apple, puis ils pourraient mettre leur petit iPhone dans ça, au lieu de faire un design en plastique, tu sais, puis ça, ben ça va se biodégrader après. Donc, nous, on travaille beaucoup, ça fait 7 ans que ça nous titille, puis on n'a jamais le temps, mais là, c'est vraiment de se poser pour faire quelque chose avec notre résidu, parce qu'on dit, on est en économie circulaire, oui, mais on génère quand même encore un certain déchet qu'on peut faire quelque chose avec. Il y a beaucoup de possibilités, le labo nous le présentait justement cette semaine. Faire du biochar, qui peut devenir un bon amendement aussi pour les agriculteurs. Il y a plein d'autres choses à faire. Fait que ça va être juste de se pencher, mettre quelqu'un responsable pour utiliser notre déchet là, de façon responsable parce qu'il peut facilement retourner dans la boucle. Moi, j'en mettais dans mon jardin, puis ça vient aider la terre, ça vient donner... j'ai fait des tests sur des plants de tomates, puis tu sais, souvent, il y a comme du mildiou, une espèce de petit autre champignon qui s'installe sur les feuilles. Bien, nous, notre champignon, bien, il vient le combattre. Tu sais, le restant de champignon dans le mélange, il vient le combattre, lui. Fait qu'il n'y en avait pas dans mes plants de tomates à moi parce que le pleurote avait comme annihilé le mildiou. T'sais. Fait que il peut avoir plein de bonnes propriétés pour la suite. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup là, de plus générer de déchets comme zéro déchet aussi, le devenir. Puis utiliser ça. J'ai vu qu'en Europe, à quelque part, ils font même des cercueils avec du substrat usé.
Ah oui.
Puis c'est super intéressant parce que dans le fond, ça va. Ça va aider à dégrader. Le mycélium va venir tout dégrader, puis il n'y aura plus rien à la fin, tout redevient champignon. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est, il y a beaucoup de possibilités avec la suite. Puis c'est bien que les gens de plus en plus fassent les liens, puis qu'il y ait des organismes pour mettre ensemble, puis faire les liens, puis qu'on puisse se rassembler tout le monde. Parce que moi, j'en ai quand même du substrat, j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Si on se met tous les producteurs ensemble, on va avoir des tonnes, puis on va pouvoir faire quelque chose d'utile avec.
C'est une parenthèse, mais le champignon en tant que tel, c'est un monde hallucinant. Tout ce que c'est. Là, je ne veux pas plugger, là, mais il y a des affaires. Là, on peut regarder en streaming là, des émissions. Là. Je ne vais pas le nommer. Là, ça commence par un N, mais il y a une série sur les champignons et tout le monde autour de ça. Et qu'est-ce que c'est et tout ce que ça permet puis tout ce qu'on ne connaît pas de ça. Mais en tout cas, c'est un monde hallucinant.
Bien, c'est ça. On dit souvent, il y a comme 3 règnes. Il y a le règne animal, végétal, puis il y a le règne des champignons. Puis je pense que celui-là va nous survivre à tous longtemps parce que les champignons, c'est vraiment un monde en soi. C'est hallucinant. On le connaît pas encore beaucoup, mais c'est vraiment très, très intéressant, effectivement, ce documentaire-là en particulier. Il y a Paul Stamets dedans qui est comme nous, notre mentor, si tu veux. C'est vraiment une bonne référence. Là. Tous ceux qui font des champignons, on a lu tous les livres. Puis c'est bien, il y a un bon partage de connaissances de sa part. Puis... il y a vraiment une suite aussi pour tout ça.
C'est intéressant. C'est quoi la suite pour Atelier B? Là, tu m'as parlé de tes mobiles, tu sais, puis de...
Oui, nous, on a encore beaucoup d'R&D. Je pense qu'on a pour 2-3 ans avant, même possiblement plus, avant d'arriver au bout des recherches puis des solutions qu'on peut trouver. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des autres entreprises de notre domaine aussi pour qu'elles aient conscience de leurs déchets puis qu'ils essayent d'embarquer un peu dans le mouvement pour résoudre ça. D'ailleurs, je sais qu'il y a des entreprises en Europe qui travaillent sur l'utilisation des champignons pour accélérer la biodégradation des fibres synthétiques. Super intéressant.
Oui, hein? On travaille ensemble bientôt.
Puis, ben, sinon, ce qu'on fait, nous, en parallèle, c'est beaucoup d'éducation, là, comme d'être ici aujourd'hui.
Ben, oui, c'est ça.
Dans nos cours, on enseigne, Catherine puis moi, ben, on leur oblige, on oblige nos étudiants à mesurer les déchets que leurs produits créent dans notre cours. Ça fait partie des documents qu'ils doivent nous remettre à la fin avec leur. Tu sais, on y a une bibliographie, mais il y a aussi une étude des déchets créés. Puis, d'aller à la source, justement, des futurs designers, c'est notre façon à nous d'espérer que ce projet-là va faire des petits va contribuer à sensibiliser au moins les entreprises, les futurs entrepreneurs.
Mais c'est ça, tu sais. Puis là, on parle en entrepreneur, puis tout ça. Bon, mais il y a aussi une sensibilisation auprès des consommateurs aussi. Là, on pourrait aller dans les mouvements zéro déchet ou dans les épiceries, justement, zéro déchet, où est-ce que c'est le moins ou pas du tout principalement d'emballage ou des choses en vrac, des choses comme ça, ou est-ce que c'est une façon, en tout cas, tu sais, c'est pas tous les citoyens, c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ce move-là, d'aller commencer à faire leur épicerie dans ce genre d'épicerie-là, mais c'est quand même une avenue, c'est quand même quelque chose qui existe. C'est quoi les autres... les autres choses que les gens peuvent commencer à appliquer dans leur day-to-day, là, à part de consommer des vêtements d'Atelier B et de manger des champignons de blanc de gris?
Ben, en général, ça serait de consommer mieux, là, d'acheter moins, mais d'acheter des choses pas issues du fast fashion ou pas issues d'entreprises qui polluent beaucoup. Ça serait comme la première étape. Pas nécessairement du Atelier B, mais tu sais, juste puis d'inclure aussi les choses, les vêtements seconde main, les choses usagées, le transfert des objets avant d'acheter neuf, que ce soit dans les vêtements ou dans les objets, là, en général. Ce serait comme un premier
pas. Des choses comme Amazon n'ont pas beaucoup aidé à ça, hein. Tu sais, à commencer à commander puis savoir que tu l'as demain et des choses comme ça. Fait que là, c'est rendu tellement facile plutôt que d'essayer de faire l'effort de dire comme, OK, ben oui, OK, j'ai une petite conscience tout d'un coup. Là, oui, OK, t'as une petite conscience qui dit, hey, veux-tu aller voir ailleurs?
Oui, mais ça va me prendre... acheter sur Marketplace qu'acheter sur Amazon. C'est certain, il faut faire l'effort.
Oui.
Ben, je pense aussi que c'est dans toutes les petites actions. T'sais, moi, je ne suis pas complètement zéro déchet, mais de toujours... Une étape à la fois, vraiment, comme
oui,
ils disent,
vrai.
Penser à amener sa tasse de café. Ou souvent, moi, je vais au restaurant, je sais que je ne mange pas beaucoup sur le coup, donc je traîne toujours un petit plat Tupperware avec moi, puis je mets mes résidus dans ça. Ben mes résidus, voyons.
Bon. Tu manges des résidus?
Oui, c'est ça, mes drèches. Ben, tu sais, d'amener un petit peu ou prévoir bien son épicerie. Comme là, je vois que je vais manquer de savon à vaisselle, ben j'apporte mon petit contenant, puis j'arrête à l'épicerie zéro déchet. Mais c'est toutes des petites choses qui viennent à se faire pas à pas, vraiment. Une chose à la fois, moi, je dirais, si on peut voir une nouvelle idée puis l'intégrer dans son mode de vie. Puis à un moment donné, ça fait qu'on l'a d'intégrer puis on le fait, tu sais.
C'est bien de faire ça, mais l'impact de chaque individu est quand même beaucoup moins grand que l'impact des entreprises. Fait que de faire pression auprès de nos entreprises aussi, en tant que consommateur, de leur poser des questions. Hey, j'ai reçu mon colis, t'es beaucoup trop emballé. Ça me déplaît. Tu sais, de montrer que ça nous déplaît le suremballage, de montrer que ça nous déplaît l'utilisation des plastiques. Les entreprises écoutent souvent quand ça vient des clients. Fait que oui, bien le faire chez soi, c'est une chose, mais aussi essayer de faire progresser les fournisseurs.
C'est un super point, ça, parce que c'est vrai, là, tu sais, à un moment donné, c'est t'achètes de qui, tu sais? T'achètes des entrepreneurs qui créent ces produits-là. Et les entrepreneurs, la plupart du temps, où, tu sais, eux, c'est productivité et coût minimal, et c'est souvent pas des affaires très, très... c'est le suremballage ou des choses pour garder les aliments plus longtemps, pour faire ci, pour faire ça. Fait que oui, de poser les questions le plus possible, puis se rendre compte que finalement, ils se rendent compte que leur consommateur, ils changent de valeur ou les valeurs ils commencent à devenir plus importantes que son produit finalement.
Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'épiceries qui ont commencé à diminuer les emballages parce que les consommateurs ne voulaient plus partir avec, fait qu'ils leur laissaient. Fait que là, il est obligé de gérer les emballages à la place des clients.
Ah, c'est eux autres qui devaient les gérer.
Donc,
bon.
Ils se sont mis à moins emballer ou à proposer un système de réutilisation des emballages, tout ça. Fait que ça peut, c'est ça, l'avenir peut, l'action peut venir des clients aussi pour faire progresser. Là.
Ben oui, on peut être rendu là. Attends, ben je vais t'amener le micro.
Bonjour, j'ai une question pour Lysiane. Quel est le matériau des emballages dans lequel vous livrez vos champignons?
Ah, bonne question. Bien, en fait, comme on sert beaucoup les restaurateurs, nous, la façon qu'on fonctionne depuis le début, c'est qu'on a des caissettes de plastique. Puis ces caissettes-là, bien, on va les chercher dans les épiceries, en fait. On a une petite épicerie qui nous fournit, lui, ben, j'en ai un, par exemple, il y a des produits qui viennent d'Algérie. Puis là, ces dates arrivent dans des belles caisses de plastique, toutes neuves, toutes propres. Il met les dates sur son étalage, puis il jette la caisse de plastique. Fait que moi, je lui dis, mets-moi les de côté, j'y vais une fois par mois, je ramasse toutes ces caisses, je les ramène chez moi, je les lave comme il faut, là, comme dans les restaurants, là, laver, stériliser. Puis là, on cueille, puis quand on cueille directement dans les caisses de plastique, puis on les livre comme ça chez nos restaurateurs, puis on leur dit, gardez-nous-les, s'il vous plaît, on va les récupérer à la prochaine commande. Fait que quand on va leur livrer une caissette, on reprend la vide et puis on la stérilise, puis on recueille dedans. Puis, donc, on utilise ça beaucoup. Sinon, pour les particuliers, c'est des sacs de papier. Ça peut c'est un moindre mal, je crois. Il n'y a pas de plastique. Puis là, pour le jerky, c'est un de mes gros problèmes en ce moment parce que je fais un nouveau produit, mais j'ai pas envie. Il faut que je les mette dans des sacs sous vide, mais là, j'ai pas envie de mettre un petit 50 grammes de jerk dans un sac en plastique qui va être jeté. Fait que là, on travaille beaucoup là-dessus. On a une entreprise qui fait des petits sacs compostables qui s'en vient. Parce que puis là, tout le monde me dit, quand est-ce que tu vas commercialiser ton jerky? Quand est-ce? Puis là, je dis, c'est pas, j'ai pas encore la solution. Puis je suis pas capable, moi, en tant qu'entreprise, de mettre ça dans des petits sacs de plastique pour qu'on les jette après. Fait que je retarde toujours un peu. J'attends de trouver la bonne solution avec toutes les contraintes du produit. On essaye vraiment de pas créer plus de déchets là, que ça. Ou nos caisses de mycélium, on reçoit des boîtes de mycélium, je leur renvoie les boîtes pour qu'ils remettent les sacs dedans. Donc, essayer de réutiliser le plus possible. Ou les sacs de Castella, même chose, on vide la sciure, puis des fois, elle est brisée, on le répare, puis on leur renvoie le sac pour essayer de pas générer plus. Après, c'est sûr qu'une entreprise va nécessairement, tu sais, on livre dans un camion, mais on essaie de jumeler des livraisons ensemble avec d'autres entreprises pour pas aller deux camions à la même place deux fois. Fait qu'on essaie de penser à tout ça. On est une quand même petite entreprise, puis nous, c'est vraiment les valeurs qui nous guident. C'est peut-être pas la même chose que des multinationales, mais comme tu disais, c'est de commencer, de le faire, de sensibiliser, puis de continuer, puis les gens... je trouve ça quand même encourageant parce que je vois que les enfants sont beaucoup plus sensibilisés qu'on l'était, nous, à l'époque. Ils disent, ben non, on va faire ça comme ça, ou maman, t'as oublié tes sacs, tu sais. Fait qu'ils ont déjà ça d'intégrer, on va à l'épicerie, puis j'oublie pas mes sacs, tu sais, parce que ma fille m'a dit, ben non, tu vas pas prendre des sacs de plastique, puis là, on a tout dans nos mains, si on a oublié les sacs. Je trouve qu'ils sont de plus sensibilisés à tout ça, les jeunes de nos jours. Ils voient qu'on pourra pas continuer éternellement là, en produisant comme ça. Fait que je trouve que c'est quand même encourageant, la prochaine génération. Ils ont des bonnes idées puis des bons réflexes. Pour que ça aille bien pour la suite.
Je trouve ça le fun, la collaboration entre entreprises. C'est comme tu dis, de faire des livraisons en même temps. Dans une autre conversation que j'ai eue avec d'autres mondes, c'est ça, une entreprise qui va s'ouvrir en région en quelque part, puis là, ils ont leur modèle d'affaires, ils veulent faire leur truc. Bon, il n'y a pas personne d'autre qui le font, fait qu'ils sont contents, nanana. Puis, ben, justement, tu sais, je pense que c'est une microbrasserie, parce qu'on parle beaucoup de microbrasserie, là, mais... Justement, je disais, OK, puis qu'est-ce que vous faites avec vos déchets? Ah, ben, tu sais, il y avait les fermiers, tu sais, beaucoup de fermiers, mais à un moment donné, tu sais, ils ne peuvent pas accepter tout. Puis en général, pour une entreprise qui s'en va s'installer ou qui s'ouvre, ça devrait faire partie de leur modèle d'affaires de voir qui est aussi dans le village ou dans la ville, puis de faire connaissance. Hey, moi, j'ouvre ma business, tu sais, tu t'en vas t'installer en quelque part pour développer, puis te faire des amis aussi, tu sais, dans un sens. Hey, de quoi vous avez besoin, vous autres? Puis de quoi? Puis de justement créer des. Ça doit être la coordination quand même de créer. Dire comme on a un camion, on fait des livraisons, mais on s'arrange avec les autres. Il doit y avoir une certaine logistique qui doit se faire. Mais il n'y a rien d'impossible. Là, mais...
Oui, bien, comme on est petit, ça marche bien. Nous, c'est ça, c'est en croisant. Je croisais souvent sur mes livraisons un distributeur de pousses. puis on se parlait, puis on se disait salut. Puis là, à un moment donné, il est venu me voir, puis il dit, ben écoute, je viens de m'acheter un camion réfrigéré, et on se voit tout le temps sur nos livraisons, on est là en même temps, on a les mêmes clients. Veux-tu que je livre tes produits en même temps que les miens? Fait que là, oui, après, ça a été de la coordination, mais on développait beaucoup nos clients en même temps. Si moi, j'allais solliciter un client, ben j'y disais que je pouvais aussi en même temps y amener des pousses de l'entreprise aux plantes. Fait qu'on, hop, on attrapait un nouveau client, les deux. Fait qu'on allait livrer là ensemble. Des fois, c'était des petits détours d'aller faire ses clients, mes clients, mais comme on parlait de l'un à l'autre, ça nous aidait au final parce que souvent, lui, les restaurants dans lesquels il était, ben je finissais par rentrer et vice-versa. Fait que c'est un petit peu plus de coordination, mais ça finit par rentrer dans la boucle, puis ça finit par se faire tout seul. C'est sûr qu'on n'est pas immense là, pour faire quelque chose comme ça, mais oui, où là, il y a une productrice de fraises qui va s'installer sur l'île, qui est venue me voir, puis on parle ensemble. Puis j'ai dit, bien, je vais te présenter mes clients. On a pas mal un beau produit, les deux. Je vais t'amener les rencontrer, puis si tu veux, bien, on pourra même amener tes fraises en même temps que nos champignons quand on aura les mêmes clients. Fait que ça se fait comme organiquement, là, si on peut dire. Ça finit par se faire tout seul. Là.
Souvent, c'est des choses qui semblent ajouter des tâches sur la liste pour les membres de notre équipe ou pour nos fournisseurs, nos sous-traitants. Puis au début, ils sont comme « Ah, tu m'obliges à changer ma façon de faire », puis ça peut les déranger. Mais nous, on essaie toujours de transformer ça. On leur amène des articles de journaux qui parlent de notre projet, de leur expliquer pourquoi on fait les choses différemment. Finalement, ils deviennent super fiers de faire partie de ça. Puis je sais qu'ils parlent de nous, ça mobilise aussi les gens. T'sais, ça passe de « Ah, c'est compliqué » à « Ah, je suis fière d'en faire partie ». Fait que ça devient quelque chose de positif. Puis finalement, qu'ils ne leur demandent pas grand-chose, c'est juste de changer un petit peu les habitudes. Là.
C'est super intéressant. Mais merci beaucoup d'avoir discuté du sujet avec moi. Puis pour les gens qui sont là, peut-être qu'il y a-t-il d'autres questions ici dans la foule, ici, parler d'économie circulaire, des choses comme ça?
Ma question, c'est pour Atelier B. Est-ce que vous travaillez avec du cuir végétal? Et qu'est-ce que tu penses du potentiel du cuir végétal pour remplacer le cuir animal?
Bien, là, il y a deux choses. Souvent, quand on parle de cuir végétal, c'est un cuir animal qui a été tanné avec des produits végétaux. Oui, ça, c'est super chouette. C'est ça, c'est le vrai cuir végétal.
Qui est à partir de quoi? Parce qu'on ne l'a pas entendu.
Il y a plusieurs choses. Il y a le cuir qu'on appelle communément, il y a des gens qui disent que c'est du cuir végétal. Ils parlent de cuir tanné végétalement parce que le cuir est tanné avec du plomb. Mm-hmm. C'est super polluant, c'est super chimique. Ben, donc, on peut tanner avec des produits végétaux, c'est déjà moins pire. Le cuir de provenance végétale, ça, je trouve que c'est merveilleux, avec des pommes, des ananas principalement.
Et on parle de cellulosique.
Exactement. Il y a une entreprise ici au Québec qui est en train de faire de la R&D là-dessus. Ça s'appelle Flora, F-L-A-U-R-A, sont super.
Ah oui.
Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est justement remplacer tous les produits de provenance animale par ce cuir-là qui aurait des propriétés similaires, mais qui pourrait justement être utilisé en ayant en plus moins de pertes parce qu'on sait que sur une peau, c'est une forme organique avec des qualités, des défauts. Donc souvent, il y a du gaspillage de matières premières en plus de sa provenance animale qui est problématique. Donc oui, le cuir de végétal, le vrai, c'est merveilleux. Moi, là où j'ai un problème, c'est des gens qui disent qu'ils ont du cuir vegan, mais c'est du plastique. C'est fait à partir de polymères, à partir de pétrole, en fait. Puis là, ils disent « Ah, mon sac est éthique, c'est du cuir vegan, dans le sens qu'il n'y a pas d'animal, mais c'est du plastique. » Bien là, c'est remplacé un peu
une pollution par
une autre. Oui, c'est ça. Mais le cuir de provenance cellulosique, ça, là, je pense que c'est l'avenir. Je suis vraiment excitée par ces propriétés-là, oui.
Cool. Mais merci, monsieur, pour les questions que vous avez depuis tantôt. C'est très intéressant. Donc, merci encore à vous deux. C'était vraiment plaisant et instructif de vous avoir ici. Puis, j'invite tout le monde à, si vous voulez réécouter cette entrevue-là, elle va être disponible en podcast sur le site. Et bonne journée.
Merci de l'invitation.
Merci d'être là. Merci pour votre écoute.